Lorsque un médecin fait une découverte quelconque, il l'essaie sur des chiens ou quelquefois sur lui-même. Eh bien, lorsque j'ai l'intuition que quelque chose existe dans tel recoin de l'âme humaine, en choisissant un personnage, en lui inoculant cette sorte de maladie à laquelle j'ai pensé, et en vivant la vie de ce personnage pendant sa période d'incubation, il est évident que je me rends compte si l'idée que j'ai eue, l'intuition que j'ai eue est valable ou ne l'est pas.
Amis rêveurs, ce soir on part en Belgique parce qu'il est impossible de parler de Simenon sans parler de Liège. Liège, c'est la ville que Simenon n'a cessé de trimballer à la semelle de ses souliers. Liège, c'est la ville de son enfance, c'est son quartier d'Outremeuse, le quartier des petites gens comme il disait, celui des artisans et des petits commerçants. Liège, c'est sa mère. Après sa mort, il n'y remettra plus jamais les pieds. Simenon a donné à Liège un grand roman, c'est Pédigré. C'est un livre hors norme, c'est son chef-d'œuvre. Pédigré, c'est une fresque dans laquelle Simenon se met à nu. Et en le lisant, on comprend d'où il vient. Pédigré, c'est un bloc de mélancolie et tout ce qui a suivi, tout le reste de la vie de Simenon, semble être une vaine agitation à côté de cette évocation grise et pluvieuse de ces années où sa vie se résumait au strict nécessaire. Simenon est un enfant de Liège et il le restera toute sa vie, malgré ses déménagements, ses voyages, ses envies d'ailleurs et de connaître toutes les vies. Et c'est bien sûr à Liège qu'il y a le centre des études et le fonds Georges Simenon. Ce sont quelques pièces dédiées aux romanciers, des livres, des traductions, des affiches de cinéma, ses tapuscrits. Un musée modeste avec sa machine à écrire, ses fameuses enveloppes jaunes et la table d'accoucheuse en bois sur laquelle il écrivait. C'est là que nous allons passer cette heure avec Laurent Demoulin, conservateur du fonds Simenon à l'Université de Liège.
Chaque semaine, quand je vais au fonds Simenon, je reçois des nouvelles éditions ou des nouvelles impressions de romans de Simenon. Ça n'arrête jamais.
Pourquoi ? Parce que c'est vivant ? Parce que ça plaît ? Pourquoi ça n'arrête jamais ?
Je ne sais pas exactement pourquoi ça n'arrête jamais. Mais la première chose, c'est de le constater que c'est non seulement en français, mais que c'est dans le monde entier. Simenon est traduit en 46 langues. Alors, la première hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose dans la simplicité de l'écriture qui fait que c'est une écriture qui se démode moins vite qu'une autre. Simenon, il cherche le mot le plus simple. Il appelait ça les mots matière.
Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Je voulais vous poser la question. Mot matière.
Lui, il le définissait comme un mot vraiment concret et qui évoque vraiment directement la chose, sans passer par l'intellect, comme si c'était un mot qui était collé aux choses. C'est un peu difficile à défendre comme point de vue. Donc moi, je le retraduirais en disant que c'est le mot le plus commun, chaque fois, plutôt. Et donc, c'est des mots souvent liés aux sensations, mais des sensations brutes. Il ne va pas chercher un mot qui définirait une sensation sophistiquée. C'est l'inverse de Nathalie Sarraud, qui cherchait toujours les sensations la plus fine, la plus complexe. Lui, il cherche la sensation de base et la sensation commune. C'est tout à fait fascinant de voir les manuscrits de Simenon, parce qu'on voit que quand il écrit, c'est écrit très serré, très rapide, et il n'y a presque pas de rature. Et quand il y a une rature, la solution vient derrière, et n'est pas entre les lignes. Vous voyez, c'est donc d'ordinaire.
C'est-à-dire que ça va tout de suite, c'est très rapide.
Voilà, il a écrit le mot, il s'est rendu compte que ce n'était pas le bon mot, et il réécrit le bon mot derrière. Donc il ne se relie pas. Comme d'ordinaire dans les brouillons d'écrivains, il y a des ratures et puis il y a des mots entre les lignes interlignées.
Je pense à Flaubert.
Ou Proust, c'est les deux cas sans doute les plus terribles. Simenon, non, son manuscrit, ça va très vite. Et donc il tapait tout comme ça. Et puis, il laissait quelques jours de repos et il corrigeait. C'est presque toujours des suppressions. Donc, il enlève un mot.
Il gomme.
Il barre un mot, il enlève. Et s'il y a un mot au-dessus, souvent, c'est un mot plus simple, de nouveau. Souvent, c'est un mot plus commun, plus courant.
J'ai vu que Colette lui avait dit, Colette lui avait donné des conseils
qui
allaient dans ce sens-là, dans le sens de la suppression, du raccourci, d'aller au plus vite et au plus simple.
Colette lui aurait donné le conseil de ne pas chercher à être littéraire. Elle lui aurait dit, pas de littérature, mon petit Sim. On n'est pas sûr que c'est une histoire vraie, comme avec beaucoup d'histoires que Simenon a racontées, parce qu'il l'a racontée bien après la disparition de Colette. Pas de littérature, ça veut dire pas d'effets littéraires, seulement des effets liés à la psychologie ou à l'intrigue, mais pas chercher à faire la belle phrase.
Je cherche des mots qui aient du poids. Le mot lourd, par exemple, ou pesant, ont un poids pour moi. Ça a une valeur.
Le mot crépuscule n'en a pas.
Tandis que le mot crépuscule n'en a pas, n'est-ce pas ? Il y a des mots comme ça qui sont très beaux, crépuscule, c'est joli comme tout, mais ça n'est jamais qu'un mot poétique. On ne sent pas. C'est comme le mot pluie est un mot admirable. Mais si vous commencez à parler d'ondée, ondée ne veut plus rien dire. Alors j'essaye de n'avoir que des mots matière. Et même pour expliquer des idées, il y a moyen de les expliquer avec des mots concrets, pas avec des mots abstraits.
Vous êtes bien sur France Inter et jusqu'à 21h, on est à Liège, dans la ville natale de Simenon, en compagnie de Laurent Demoulin, conservateur du Fonds Simenon.
Je pourrais bien brûler les preuves, trier les pages de mon passé, prendre un bassin ou même un fleuve pour abonder le peu que j'ai. Je pourrais bien changer 100 000 fois de visage, rier mon nom de toutes les listes et m'effacer des paysages ouverts. Et à présent que neige, ma mémoire
on est dans une pièce où les murs sont recouverts de Simenon. Au plafond, c'est des affiches.
De films adaptés de romans de Simenon, oui. Donc ça commence tout de suite. C'est une histoire d'amour tout à fait étonnante entre Simenon et le cinéma, plutôt entre le cinéma et Simenon, parce que très vite, pour Simenon, il s'en est désintéressé. Au début, il a voulu participer, mais ça ne s'est pas passé comme il voulait. Il est même bien décidé, si vous voulez, un écrivain, il est complètement libre de toute sa création. Au cinéma, on doit faire tout le temps des compromis. Donc, il s'est retiré après un moment et c'est devenu pour lui une affaire. Enfin, Simenon, en
même temps. De l'argent.
Oui, beaucoup d'argent. En même temps que d'être un écrivain, Simenon était un homme d'affaires très doué pour les affaires. Il a révolutionné. À une époque où l'écrivain français devait afficher dans son image une sorte de mépris des affaires et de l'argent, des choses matérielles, on est au-dessus de ça. Simenon, lui, il était très directement intéressé et il avait des rapports très conflictuels avec ses éditeurs parce qu'il n'était jamais assez content, on ne fait pas assez de publicité, etc. Il a inventé le marketing littéraire. Il y a là, par exemple,
là dans la bibliothèque,
où il a inventé le logo. Les romans de Simenon, il y a un petit dans le coin, au-dessus, il y a une photo de Simenon dans un cercle, où il y a sa pipe qui dépasse du cercle. C'est un logo, Simenon, c'est une idée à lui, ce n'est pas une idée des éditeurs.
Donc marketing littéraire, logo.
Oui, c'est une sorte d'invention de Simenon. Il n'a pas inventé que le commissaire Maigret. Il n'est pas que le père du commissaire Maigret, il est aussi le père d'une nouvelle conception plus moderne, plus américaine, on pourrait presque dire, de la littérature et qui a choqué à l'époque en France.
Oui, il était très méprisé par le milieu littéraire, justement.
Et il lui rendait bien, oui, beaucoup de mépris. Surtout qu'il a commencé par écrire des romans de gare, de la littérature à deux sous, des romans d'aventure pour les jeunes garçons, des romans à l'eau de rose pour les dames, et puis des romans un peu grivois, on va dire, pour les messieurs. Il en a fait presque 210 ans, à toute vitesse. Donc, il écrivait très vite, ce qui n'est pas bien vu.
Il faut oui, c'est ça. Une grande puissance de travail.
Une immense puissance de travail, mais c'est mal vu d'écrire vite. Quelqu'un qui écrit vite ne peut qu'écrire mal, dans l'imagerie littéraire de cette époque-là. Et donc, il a commencé par ces romans-là, et puis il passe par le roman policier, qui présente lui-même comme de la semi-littérature. Donc lui-même, il se rend compte que ses romans de gare sont des romans de gare. Il dit, mais on ne demande jamais à Pat de commencer tout de suite par un chef-d'œuvre. Il faut d'abord imiter les autres. Un musicien fait ses gammes. Moi, j'ai fait mes gammes en écrivant des romans populaires. J'ai appris le métier. J'ai gâché du plâtre.
C'est ça, il a gâché.
Voilà.
C'est ça, il s'est entraîné avec les Maigret, avec les romans populaires. Il s'entraînait.
Voilà, c'est comme
il
ça
en pondait en 8 jours, en 10 jours. Hein, c'est ça,
oui.
Un roman tous les 8 jours, tous les 10 jours.
Au niveau des romans populaires, c'était même parfois par jour, puisqu'il en a fait 200
en
une dizaine d'années. Presque 200, un peu moins, mais...
Il s'est fait la main.
C'est comme ça qu'il l'a présenté, en tout cas. Voilà les manuscrits.
Ah oui, c'est très impressionnant. Il n'y a pas
donc
de rature.
Vous voyez là. Voilà,
c'est
là,
vrai que par rapport à Flaubert, c'est le contraire.
Presque pas de rature. Et vous voyez là, il y a une rature,
ouais.
Là aussi. Et il n'y a pas de mots interlinéaires. Et c'est écrit tout petit.
Ça ne ressemble pas à un brouillon.
Non, ça ressemble, on dirait que ça vient comme ça.
Là, ça, c'est les originaux.
Ça, c'est un dactylogramme original. C'est La fuite de Monsieur Monde, un des romans de Simenon, qui est le plus idéal typique, je dirais. C'est parce que le schéma de base des romans de Simenon, c'est très souvent quelqu'un qui passe la ligne, comme il disait lui-même, donc qui a une vie normale. Une vie banale. Et puis, il se passe quelque chose qui fait qu'il bascule et il change de vie, il passe dans la marge ou il quitte tout. Et alors, il y a plusieurs scénarios. Soit sa vie bascule, change vraiment, soit il revient à la case départ. Ce n'est pas nécessairement des romans qui donnent beaucoup d'espoir.
Non.
C'est souvent des gens, des anti-héros plus que des héros. C'est souvent des gens un peu médiocres. Donc, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui soudain passe la ligne.
Bascule, et bascule. C'est ça qui l'intéresse, c'est ce et moment c'est ça. Où ça bascule.
Voilà.
Dites-moi, c'est votre nom, Ir ? Ir est l'abréviation de mon nom. Je m'appelle Irovitch Désiré Alphonse. Et vous êtes français ? Né à Paris dans le 14e. Le jour du crime, à l'heure du crime, que faisiez-vous ? Pour vous répondre, il faudrait que je susse quel jour et à quelle heure cette personne a été tuée. Vendredi entre 7 et 8 heures du soir. C'est l'heure où d'habitude je fais mes petits achats pour le dîner. Vous étiez seul ? Je suis toujours seul. Vous n'aimez pas beaucoup la société, vous. Dans quel sens employez-vous ce mot ? Je parle français comme tout le monde et je constate que vous n'avez pas d'amis. Un point, c'est tout. Je n'aime pas les hommes, et encore moins les policiers. Les femmes non plus, à ce qu'il paraît. C'est selon.
Moi, je voulais qu'on parle de l'artisan. Parce qu'il se définissait comme un artisan. Et je voulais qu'on parle de tous ces rituels... Ça m'a beaucoup impressionné.
Alors ça, il faut que je vous montre d'autres choses qui sont ici aussi.
Ah, je vous suis.
Au fond, c'est mon nom. Ce sont ces documents préparatoires qu'il appelait lui-même des enveloppes jaunes. Là, je prends un roman de 1962, je prends au hasard.
Alors, il faut que vous expliquiez ce que c'est qu'une enveloppe jaune. Parce que sur son bureau, avant qu'il commence un roman, il remplissait ces enveloppes jaunes, de tas de choses.
De tas de petites choses. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que les enveloppes jaunes ne sont pas jaunes. Je suis désolé de décevoir vos auditeurs, chère Zoé, mais ils sont plutôt, je ne sais pas, terre de sienne, orangée. Ce sont bien des enveloppes, mais ça n'a aucune importance que ce soit une enveloppe, ça pourrait être une bête feuille, puisqu'il ne met rien dedans.
Non.
C'est juste un rituel. La première fois qu'il a éprouvé le besoin de prendre des petites notes comme ça avant d'écrire, le papier qu'il avait sous la main, c'était une enveloppe jaune. Et donc, il a toujours voulu, parce que c'était un homme de rituel, un peu obsessionnel, comme ça, employer le même type de papier pour ses papiers préparatoires. Et il les a tous gardés, et donc on en a une grande partie ici. Alors, ce sont des indications, c'est ça qui est étonnant, ils sont toujours très concrètes. Donc, ce n'est pas des analyses psychologiques, ce n'est pas des éléments d'intrigue, c'est des indications très concrètes, comme on note un numéro de téléphone, pour ne pas oublier du genre l'âge, la date de naissance précise des personnages, leur nom, et parfois des indications de lieu.
Où ils habitent.
Et, oui, où ils habitent, ou parfois il y a des petits plans un plan d'immeuble ici.
Il y a
un plan d'immeuble. Et au rez-de-chaussée, on a tel personnage, premier, deuxième, cinquième étage. Donc,
c'est vraiment... Là, il y a l'adresse des personnages.
L'adresse des personnages. Il y a parfois le numéro de téléphone. Là, il y a un plan du quartier, le fleuriste, l'épicerie. Et je comprends ça comme des éléments qui lui permettent d'entrer dans la peau du personnage. Un peu comme un acteur qui joue un rôle d'époque, que le fait d'enfiler son costume du XVIIIe siècle, ça l'aide à se sentir un homme du XVIIIe siècle. Quelque chose comme ça. Et je crois que Simenon était une sorte d'acteur. Il se mettait dans la peau des personnages et qui s'appuyait sur ces petits détails concrets-là pour mieux entrer dans la peau des personnages.
C'est ça, on dit que son écriture, c'était presque une transe, tellement oui. il vivait à partir du moment où il avait défini son personnage.
Il fallait que ça aille très vite, parce qu'effectivement, il était dans une sorte de dépossession de lui-même. Il devenait un autre. Ça lui demandait une énergie vitale immense. Et donc, c'est pour ça qu'il écrivait si vite, parce qu'il disait « je ne peux pas rester un autre pendant des mois ». C'est épuisant d'être un autre que soi-même. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il retrouve sa personne à un moment donné. Il y a des anecdotes là-dessus, de nouveau, difficile de savoir si elles sont vraies ou mais si elles ne sont pas vraies, elles sont bien trouvées. Que sa fille, quand il venait à table, quand il était en période d'écriture, sa fille, à sa manière de marcher, devinait l'âge du personnage principal du roman. S'il était un peu voûté, papa, tu écris un roman sur un vieux monsieur. Si l'arrivée d'un pas à l'aigle, c'est que c'était un jeune homme, le héros principal.
Au moment où je vais écrire un roman, j'ignore absolument, absolument sur quel thème il va être écrit. Tout ce que je connais, c'est un certain climat, une certaine ligne mélodique. N'est-ce pas ? C'est presque comme un thème musical. Ça part souvent sur une odeur, par exemple. N'est-ce pas ? Je passe dans un chemin. Le jour où j'ai décidé d'écrire un roman, je passerai le long d'un chemin, je vais sentir les lilas, mettons une bouffée de lilas. Eh bien, les lilas vont me rappeler certaines choses ou de ma jeunesse ou d'un autre âge, d'une certaine autre campagne, certain autre coin, et je vais avoir envie de vivre pendant quelques jours dans cette ambiance-là. Et je vais me demander, mais voyons, qui vivait là? Que pourrait-il se passer dans ce coin-là? Je me souviens d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je le transforme complètement. Il se mélange avec d'autres personnes que j'ai connues pour devenir des personnages complètement différents. Et puis à un moment donné, un de ces personnages m'habille comme un costume qui vous va bien, vous savez, je sens que j'y suis à l'aise, et je me dis, bon, ben maintenant, que va-t-il arriver à ce personnage-là ?
C'est un romancier de l'autre. Il y a des romanciers du jeu, Proust par exemple, Rousseau, et il y a des romanciers de l'autre qui se projettent dans d'autres personnes. Simenon a fait un peu les deux, parce qu'il y a aussi des romans du jeu, mais la majorité de ses romans, c'est quand même des romans de l'autre, où il arrive à se mettre dans la peau, je reprends cette expression, mais aussi dans l'esprit et dans la vie, d'entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre, qui parfois n'a vraiment pas grand point commun avec lui.
Et alors, c'était un enfermement, si j'ai bien compris. Plus de téléphone, plus de visites, plus rien.
Plus rien.
Que l'écriture, a trempé sa chemise de sueur et ne sortant de son bureau que quand c'était fini. Et j'ai lu une chose, alors peut-être aussi que c'est de la légende, mais je la trouvais très belle, c'est qu'il faisait passer une visite médicale à toute la famille pour être sûr de ne pas être perturbé par la maladie pendant le temps de l'écriture.
Voilà, oui c'est une chose qu'il a racontée aussi, effectivement, que le médecin de famille, quand il sentait qu'il allait entrer en écriture, pour ne pas être dérangé par la maladie éventuelle des enfants, faisait passer une petite visite médicale à
c'est
tout
génial.
Le monde. C'est génial. Ça prouve aussi que c'était un père très attentionné. Ça, ses enfants, particulièrement John Simenon, le racontent souvent qu'il a été un père très présent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puisqu'il écrivait tellement vite, ça lui laissait beaucoup de temps pour faire son travail de père de famille. Mais une fois qu'il écrivait, il n'était plus que l'écrivain, quoi. Il fallait pas le dire « Do not disturb » sur sa porte. Et,
Il mettait « Do not disturb » sur sa
oui,
porte.
Oui, il y a des photos qui montrent ça, en tout cas.
Ah, oui.
Et l'homme d'affaires réglait toutes ses affaires avant de laisser la place à l'écrivain. Il appelait ça « clean the desk ».
Thank you.
les mots sont au service. C'est pas un poète, quoi. Hein. Les mots sont au service de quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a, de nouveau, là, il y aurait deux types d'écrivains. Les écrivains au service des mots. Les écrivains pour qui les mots sont au service d'autre chose. Simenon, là, il est clairement du côté, et toute son œuvre, là, il n'y a pas d'exception, toute son œuvre est du côté, les mots sont utiles. Et sont au service de la psychologie, je dirais, essentiellement. Plus que de l'intrigue. Parce que même si c'est du roman policier, même les Maigret, ce sont d'abord des romans psychologiques.
Et vraiment, c'est ça qui l'intéressait, parce que c'est ce qu'il disait, que c'était l'homme qui l'intéressait, qu'il voulait connaître l'homme, que tout ce qu'il avait voulu dans sa vie, c'était ça, chercher l'homme, connaître l'homme.
Voilà,
l'homme
parlait,
nu.
Voilà, c'est ça, il parlait de l'homme nu, mais il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Ce serait le commun dénominateur à tous les êtres humains.
C'est ce que nous avons de commun, nous tous,
voilà.
tout ce qui résonne de manière commune en nous.
Voilà, voilà.
C'est ça, ça.
C'est ça.
Et est-ce que c'est pour ça que Pierre Assouline, son biographe, dit, lui, que quand on parle de Simenon, on devrait plutôt parler de la condition humaine. C'est que c'est ça qui l'a intéressé.
Oui, je suis d'accord avec Pierre Assouline. Oui, la condition humaine, c'est ça qu'il cherche.
C'est ça.
Avec peut-être, il y a une part d'illusion là-dedans, puisque sûrement que la condition humaine est faite aussi de cette couche sociale, qu'il y a peut-être une part d'illusion dans le fait de penser qu'il y a... C'est un débat philosophique. Est-ce que l'homme est une pomme, on enlève la couche sociale et puis on a le vrai fruit, ou est-ce que c'est un oignon et qu'on enlève les couches, il n'y a plus rien? Moi, je pencherais plutôt pour l'oignon, hein, personnellement.
Si.
Simenon, on dirait qu'il est du côté de la pomme et qu'il pense qu'il... Mais il n'y arrive jamais vraiment tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il en écrit autant, parce qu'il est à la recherche de l'homme nu. Et au fond, sa force, c'est peut-être ça, justement, qu'il se rend compte qu'il n'a pas encore trouvé. C'est un rêve, c'est un horizon vers lequel il marche. Et peut-être qu'en multipliant les personnages, il a l'impression de s'en approcher dans des cercles concentriques qui s'approchent de cet homme nu introuvable. Il n'a pas la prétention de croire qu'il l'a trouvé. Je crois que c'est ça qui fait sa force, d'avoir cette humilité-là, de rester un chercheur. Donc, on parlait d'artisan tout à l'heure. Il est un artisan au niveau des lettres, mais il est aussi une sorte de chercheur au niveau du travail psychologique de son œuvre.
De fouille, un archéologue.
Un archéologue humain. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Dans le grenier du fonds Simenon de l'Université de Liège, il y a de grandes armoires métalliques remplies de caisses et de caisses de courriers. Ce sont les milliers de lettres que les lecteurs de Simenon lui envoyaient et auxquelles Simenon répondait avec un grand respect. Très souvent, il s'agit de personnes qui s'identifient à un de ces personnages de roman. Laurent Desmoulins, conservateur du fonds Simenon.
Je trouve jamais la bonne clé du premier coup.
Voilà, vite. Je ne fais pas plus chaud ici.
C'est un vrai grenier.
Voilà, c'est un vrai, vrai grenier.
Où on meurt de froid.
Et voilà, je ne sais pas, le courrier. Alors, donc, c'est ses caisses, c'est ses boîtes à lui. Donc, il était très ordonné.
Ah, c'est les siennes que vous avez là.
Oui, oui, oui. Et c'est classé par pays et par année.
Ouais, c'est fou. Archive. Donc,
voilà.
C'est lui qui rend archive et tout comme ça.
Il y en a qui sont juste mis à part. C'est ceux qui demandent des photos.
Ça.
Et les tapeurs.
C'est les... quoi les tapeurs?
Des gens qui demandent de l'argent. On ouvre quelle année? Vous voulez quelle année?
Au pif, non?
Début des années 60. Des milliers, donc. Et donc, il garde une copie de la réponse. Hein.
Et qu'est-ce qu'il avait répondu ? Attendez, je peux voir.
C'est son épouse qui a répondu.
Mon mari, qui me confie le soin de tout son courrier, me charge de vous dire qu'il lui est impossible de donner suite à votre lettre du 31 décembre 63. En effet, comme à tous ceux qui lui suggèrent un sujet de roman, il me faut vous dire ce qu'il répond invariablement, c'est-à-dire qu'il lui est rigoureusement impossible de se servir de ce qu'il n'a pas observé ou imaginé personnellement. Recevez encore, madame, mes salutations distinguées, madame Georges Simenon.
C'est très intéressant, hein. Je découvre ça en même temps que vous, mais ça dit au moins deux choses différentes. Ça veut dire qu'il y a une telle proximité entre l'écrivain et son public que les gens pensent que c'est possible que... Ah, puisque vous racontez une histoire si proche de la mienne, je vais vous raconter la mienne et vous allez faire un roman, quoi. Et ça dit aussi quelque chose de lui. D'abord qu'il estime qu'il faut répondre à ces gens, ou il fait répondre son épouse, mais aussi que, oui...
Il faut que ça passe par lui.
Il faut que ça passe quand même par lui, évidemment. Mmh. Même si se nourrit des autres, c'est l'autre intériorisé.
On peut encore une ou deux, parce que alors, moi je pourrais passer des heures là. Alors attendez, il y en a deux. Cher maître.
Ah oui, les gens sont parfois un peu obséquieux, évidemment.
Je possède un très beau solitaire de plus de 12 carats, légèrement champagne, pierre pure à la loupe, d'un éclat particulièrement beau et vivant. Ce brillant vaut 20 000 $. Malade depuis des années, sans chance de guérison, ma santé exige des soins coûteux et au-dessus de mes possibilités. C'est pourquoi je veux revendre ce bijou de famille. Je suis disposée à vendre ce diamant pour environ la moitié de sa valeur. Ainsi, celui qui me rendra service aura de son côté un grand avantage. Si mon offre rencontre votre intérêt, va sans dire que la plus grande discrétion vous est assurée et naturellement j'accepte l'expertise du joaillier de votre choix. Je vous remercie de votre lettre. Je vous garantis bien entendu la plus grande discrétion, c'est la réponse. Il se fait malheureusement que pour différentes raisons, je ne suis pas acheteur de bijoux en ce moment. Je le regrette car votre offre est tentante et je suis persuadée que vous n'aurez pas de peine à trouver acquéreur. Recevez, madame, l'assurance de mes sentiments respectueux. Georges Simenon. Encore une, il y a peut-être une qui parle quand même des œuvres, mais c'est drôle là ce qu'on trouve.
Oui, là il y en a une qui parle de Maigret.
Je suis allemand.
Et un admirateur de vos œuvres, surtout des romans policiers du commissaire Maigret. Je les lis naturellement en français. D'abord, j'ai cru naïvement que Maigret existe et j'ai voulu prendre des renseignements sur lui auprès de la PJ à Paris. Mais plus tard, j'ai compris que vous l'avez inventé, comme Agatha Christie, son commissaire Poirot. Poirot n'est pas commissaire. Et Conan Doyle, son Sherlock Holmes. Je vous écris, monsieur, pour vous remercier du plaisir que vos livres m'ont fait. Par eux, j'ai bien fait la connaissance des Parisiens et de leur vie privée. C'est drôle. Comme je fume la pipe comme vous et comme Maigret, le milieu de ces récits me touche familièrement quelque part. Peut-être vous considérez une fois en écrivant une autre aventure de Maigret de faire rencontrer celui-ci un autre fumeur de pipe passionné avec qui il discute les sortes de tabac qu'il aime et les espèces de pipes qu'il préfère. Ce sera amusant pour tous les fumeurs pipes lisant vos romans. Les fumeurs pipes. C'est un Allemand qui écrit en français, c'est pas si mal. Quant à ma personne, j'ai déjà 69 ans et je travaille encore dans une imprimerie d'offset qui fait des boîtes pliantes en faisant des calculs. Excusez les fautes que j'ai faites en vous écrivant et recevez, monsieur, mes salutations distinguées.
Faites voir la réponse.
Et répond, cher monsieur, votre lettre me touche beaucoup et je suis ravi que mon bon vieux Maigret vous plaise. Nous sommes donc trois à fumer la pipe et je vous promets que, dans un de mes prochains romans, j'essaierai de faire discuter de cet art par mon commissaire. Ah là, il accepte le conseil du... Croyez-moi, cher monsieur, cordialement vous, Georges Simenon.
Bonsoir, Cachoudas. Vous êtes parti hier soir.
Oui.
Vous savez, Cachoudas.
Oui.
Vous savez pourquoi? J'ai tué ma femme il y a 2 mois. Mais dans 3 jours, c'est son anniversaire. Et ce jour-là, ses amis venaient la voir. Tous les ans, depuis 10 ans, ils venaient la voir pour son anniversaire. C'est pour ça que j'étais obligé de les tuer. Vous comprenez? Pour que personne ne sache que ma femme est morte. Vous voulez que je vous dise? J'ai fini. Je ne tuerai plus.
Ces personnages, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont tous, pour la plupart, des gens médiocres.
Oui.
C'est des gens médiocres qui cherchent à sortir de leur médiocrité.
Oui.
Et qui s'enfoncent.
Ils n'y arrivent pas. Ouais. Oui, oui. Il faut peut-être prendre le mot médiocre aussi dans son sens étymologique, c'est un homme du milieu, quoi. Ça veut dire pas des gens extraordinaires, pas spécialement courageux, par exemple.
C'est sombre. Hein.
C'est sombre.
C'est sombre. Ouais. Ça finit pas bien.
C'est un peu étonnant aussi, ça. Hein,
que tant ça plaise autant, ouais.
Tant de succès pour quelque chose d'aussi... D'ailleurs, j'allais dire d'aussi noir, mais c'est plutôt gris que noir.
Oui, c'est ça, c'est pire.
C'est pire.
C'est gris.
C'est pire, c'est gris. Je crois que les gens s'y reconnaissent. Enfin, que cet homme médiocre, c'est vous et moi. Enfin, on a tous des côtés comme ça. Donc, on n'est pas tous Jean Valjean. On n'est pas tous capables de grande générosité. Enfin, peut-être personne. Peut-être Jean Valjean n'existe pas. Par contre, les personnages de Simenon, ils existent. C'est plus réaliste, si vous voulez. Donc, et ce réalisme-là, peut-être à quelque chose d'apaisant, on se sent moins seul. Donc de partager la pesanteur de sa vie, de sentir qu'on la partage avec un écrivain et avec tous ses lecteurs, ça peut avoir un effet... ça fait du bien que ce soit dit quelque part, quoi, que la vie est comme ça.
Sidi Bou Saïd, Tunis, 21 août 42. Cher Simenon, je suis honteux de mon silence au point de ne plus oser vous écrire. J'ai lu avec la plus grande application la dactylo de Pédigré, incomparablement supérieure à la première version. Mais, à mon avis, le caractère de la mère, Élise, est peint avec trop d'insistance. Les traits sont appuyés à l'excès, les larmes trop fréquentes. Conseil, méfiez-vous des phrases inachevées, procédé facile et qui perd toute vertu par l'abus que vous en faites. En général, très bon travail, à continuer sans défaillance. Très bon travail, mais un peu tranquille. Et l'on n'y sent pas la transe où tout de même vous excellez. Ah, quand nous rencontrerons-nous, j'aurai tant à vous dire. Et pris des quantités de notes en vous lisant. Je crois vous connaître bien, et pas seulement vos extraordinaires qualités, mais aussi, et ce dont surtout je voudrais vous parler, vos limites. Il peint toujours des abouliques, des faillites, des laissés-aller. L'individu vaincu par les circonstances, bouffé par le milieu, l'ambiance, pourquoi pas? Il s'en dégage et comme à votre insu, une sorte de philosophie amère. Mais tout de même, il n'y a pas que des ratés mauvaises étoiles et l'on souhaiterait vous voir aux prises avec la question grave « Que peut un homme et qui ne serait pas vaincu ?» Vous nous devez des merveilles, je le pressens, je les attends. Votre très attentif, André Gide. Il y a une grande correspondance entre Gide et Simenon. Mmh. Comment c'était entre deux ?
C'est une belle rencontre parce que tous les deux ont quelque chose à y gagner. Gide est fasciné par la force purement brute narrative qui sort chez Simenon. Cette machine à roman, cette sorte d'efficacité, que le compare à Balzac parce qu'il a le sentiment que c'est quelque chose qui n'existe plus. Comment c'est encore possible aujourd'hui d'avoir une sorte de rapport si direct à la narration? Gide, qui a commencé par des romans symbolistes contournés, Palut, c'est un roman sur quelqu'un qui veut écrire un roman, et puis avec les faux monnayeurs, il y a un roman dans le roman, enfin des choses modernes, quoi. C'est un des premiers romans si modernes, quelque part, il préfigure le nouveau roman, etc., Gide, quelque part. Et puis là, il est face à quelqu'un qui y va franco, comme ça, qui y va franchement sans se poser de questions, qui avance tout droit.
Et très loin du nouveau roman.
Et très, très, très loin du nouveau roman. Très loin de ce que Gide fait aussi, et il est complètement fasciné par le toupet, quoi, et la facilité de Simenon. Donc il veut rentrer dans la machine, voir comment il fait. Évidemment, comme toujours, quand il y a un mystère, c'est comme le roman policier, la résolution laisse peut-être un peu sur la fin, parce que Simenon a beau lui expliquer comment il fait, au total, il est un peu déçu, finalement, à la fin de l'histoire de cette rencontre.
Il est déçu parce qu'il produit, hein. Il pense qu'il aurait pu faire mieux.
Plus,
il n'est pas content de sa littérature, il n'est pas content de ce qu'il écrit. Gide n'est pas content de ce qu'écrit Simenon.
Il n'est pas toujours content de ce qu'écrit Simenon. Il est plus fasciné par la productivité que par la production. Et après un moment, le mystère reste entier, si vous voulez. Donc Gide reste sur sa fin et la correspondance s'étiole sans s'arrêter, quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce que trouvait Simenon, lui, dans cette correspondance?
Et Simenon, lui... Comme justement, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il n'était pas bien vu dans l'institution du monde littéraire parisien de l'époque, il est considéré comme un sauvage. Quelque part, il s'en fiche, quelque part, peut-être même ça le flatte. Mais quelque part aussi, ça le fait souffrir, évidemment. Et là, soudain, que le monsieur littérature française à l'époque, André Gide, le prend sous son aile, le désigne, c'est le romancier d'aujourd'hui. Évidemment qu'il ne peut pas rêver mieux que Laval de Gide, lui qui est, il est méprisé par des gens comme Poulenc, par exemple, qui est l'autre grande éminence grise de Gallimard. Et puis Gide, il n'y a personne aujourd'hui qui a une place comme Gide avait à l'époque. Quoi. Ça n'existe plus, l'écrivain par excellence comme ça.
Et il y en avait d'autres.
Une référence, oui, c'est ça, presque absolue. Et alors d'être désigné par Gide, de nouveau, c'est deux images qui se rencontrent. J'ai déjà entendu dire, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, que par la suite, plus tard, Simenon aurait dit « ce qu'écrit Gide, ça m'ennuie ».
Pourtant, c'est Gide qui conseillera à Simenon au moment de l'écriture de son grand roman Pédigré de passer de l'autobiographie au roman autobiographique. Et Simenon a suivi ses conseils, et c'est ce qui va faire la réussite de ce livre. Pédigré, c'est le roman de la ville de Liège, une ville humide et sombre, une ville inondée de pluie à la lumière crépusculaire. Pierre Assouline, le biographe de Simenon, dit que c'est par Pédigré que l'on devrait aborder le continent Simenon. Alors c'est ce que j'ai fait, même si ce roman ne ressemble à aucun autre. Mais c'est quand même le plus représentatif de son ton, de sa patte et de sa manière. Pédigré, c'est le chef-d'œuvre de Simenon. C'est une fresque sociale. C'est un livre dans lequel il devient l'archéologue des siens. Dans Pédigré, Simenon raconte son enfance liégeoise, la tristesse, la mélancolie, l'existence grise de sa famille qui vivote de boutiques en paroisse, de funérailles en dimanches tristes. C'est la vie petite, le strict nécessaire, une mère habituée au malheur, qui pleure et se plaint, et un père, silhouette magnifique, qui traverse la ville en marchant. Liège, c'est la ville que Simenon n'a eu de cesse de quitter, mais qui lui a collé toute sa vie aux semelles de ses souliers. On est toujours avec Laurent de Moulin, conservateur du fonds Simenon de l'Université de Liège.
Simenon est né à Liège, et presque tous les romans écrits en français se passe à Paris, enfin, pour presque tous exagère, peut-être 80% des romans. Et donc, on est habitué, qu'on habite n'importe où en France ou en Belgique, à connaître littérairement Paris. Et là, nous, Liégeois, on a la chance d'avoir un grand roman qui se passe dans notre ville et qui est Pédigré de Simenon, qui est né. C'est très étrange de lire un roman qui se passe dans sa ville. Maintenant, si c'est le cinéma, c'est à New York que ça se passe, les films, ou à Los Angeles.
Ça ne se passe jamais à Liège.
Ça se passe jamais à Liège. Il y a les Frères Dardenne maintenant, heureusement pour nous. Mais bon, jusque-là, avant les Frères Dardenne, il n'y avait pas. Et là, dans la littérature, on n'a pas grand-chose d'autre, mais on a un chef-d'œuvre, effectivement. J'ai bien envie d'être d'accord là aussi avec Pierre Assouline et de dire que c'est une sorte de roman central, comme ça, phare. Et en même temps, un roman excentré, c'est les deux, parce que c'est un roman très différent des autres. D'abord parce que c'est un roman autobiographique. Il faut bien garder les deux mots, autobiographique et roman. Ce n'est pas une vraie autobiographie, mais c'est vraiment très, très, très fort inspiré de son enfance et du début de sa jeunesse, donc justement la période où il habite à Liège.
Jusqu'à ses 15 ans à peu près, hein, c'est ça.
Voilà, jusqu'à la fin de la guerre 14-18.
J'ai lu ce livre et après je me suis interrogée sur le titre. Parce que si on s'interroge vraiment sur le titre, c'est encore plus intéressant. Parce que ça voudrait dire, c'est vraiment de là d'où il vient, sa marque.
Oui, ses racines, l'arbre duquel il descend et duquel il s'est éloigné, mais en même temps, sans jamais réussir tout à fait à ce qu'il disparaisse. Quoi. Il s'en éloigne, mais il revient toujours. Il a dit des choses les plus contradictoires sur son lien avec sa ville natale. À certains moments, il dit... je resterai toujours le petit garçon d'Outremeuse. Outremeuse, c'est même pas Liège, c'est un quartier de Liège qui est sur une île, si vous voulez, un quartier qui est entre deux bras du fleuve. C'est là qu'il a grandi, quoi. C'est là qu'il est allé à l'école primaire, etc. En même temps, il a dit l'inverse. Il a dit, je suis un citoyen du monde, moi, j'ai pas de nationalité. Donc, vous voyez, il a dit une chose et son contraire.
Et en même temps, il appelle ça Pédigré.
On dirait quelque part qu'il voudrait être quitte de cette ville en écrivant Pédigré. Et il n'y arrive jamais tout à fait, quelque chose comme ça.
Vous vous dites dans ce roman, dans Pédigré, on voit de quel arbre il descend.
Voilà.
Moi, j'aimerais qu'on parle de cet arbre. Parce que je l'ai lu et j'ai eu l'impression d'être entre... J'ai vu du Dostoïevski par moments, dans ses lumières crépusculaires, dans une description de la ville, comme ça. J'ai vu du Zola, j'ai pensé à du Zola. Mm-hmm. Mais ce n'est pas Germinal.
Il y a une scène qui est un peu comme ça. Il y a une scène tout à fait étonnante où il décrit une grève ouvrière.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique, cette scène. C'est une des plus belles pages de Simenon. Et de nouveau, c'est une page qui ne ressemble à aucune autre page aussi. Non. Elle est étonnante, parce que je le disais tout à l'heure, la classe ouvrière, sinon elle n'existe pas. Dans Simenon, il parle des petites gens, il appelle ça les petites gens, ce qui est une manière de déclassifier, parler des classes sociales sans parler des classes sociales, en évitant la lutte des classes. Les petites gens, ce n'est pas la classe ouvrière. Et d'abord, ce sont des petits commerçants.
C'est ça. Alors, on y a souvent... il y a souvent un malentendu. Parce que donc, Simenon disait qu'il décrivait la vie des petites gens. Et en fait, c'est la petite bourgeoisie, la toute petite bourgeoisie. Mais vraiment toute petite.
Voilà,
hein.
Toute petite bourgeoisie.
C'est ça qu'il décrit.
Les artisans, les petits commerçants. Qui ont difficile à boucler leur fin de mois aussi, mais ce n'est pas la classe ouvrière. Sauf dans cette page magnifique de Pédigré, qui s'arrête un peu brusquement, sur un coup de feu, et on ne sait pas par qui il est, et où on voit les ouvriers qui descendent sur la ville. À l'époque, il y a beaucoup de mines, où on extrait du charbon dans la région, et donc c'est les gueules noires qui sont terribles, et qu'on ne voit jamais dans la ville d'ordinaire, ils descendent tous. Et à ce moment-là, le personnage principal n'est pas encore né, c'est sa mère qui est une petite bourgeoise, qui est à la fois fascinée et terrorisée par ce qu'elle voit.
Qui va dans la rue, qui court pour aller voir.
Oui, c'est comme un spectacle. La foule est là pour voir ce qui va se passer, comment ça va tourner. Et ça s'arrête, la scène s'arrête. On ne sait pas comment, si ça dégénère ou pas, cette manifestation. Et ces hommes sont à la fois beaux, effrayants. Moi, je trouve qu'ils sont magnifiés, c'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que cette page est étonnante, parce qu'ils ne sont pas dénoncés, ces ouvriers qui font la grève. Ils sont magnifiés, ils sont beaux et terribles dans cette page de Simenon. Donc, voilà, Simenon écrivait plutôt à droite, là, soudain, une page, oui, qui pourrait être volée à Zola, effectivement, à la gloire de la classe ouvrière, des mineurs.
Ouais.
Tout à fait étonnant. Donc,
et en même temps, quand on dit Zola, ce n'est pas juste, parce qu'on n'est pas du tout dans cette description-là. Parce que c'est pas juste de dire Zola du point de vue de l'écriture, du point de vue de rien n'est juste quand je dis Zola. Et pourtant, il y a un goût de quelque chose comme ça, parce que c'est une peinture. Parce que c'est le roman d'une ville, c'est roman de votre ville, mais pas une épopée.
C'est un roman collectif.
C'est un roman de la famille.
Oui, c'est à la fois un roman d'une famille et un roman de la ville, ce qui est de nouveau à part dans les romans de Simenon, qui sont toujours centrés sur très peu de personnages. Là, ça devient soudain une saga. En fait, toute la ville y est, quelque part, et les différentes classes sociales.
Greffier.
Oh, ben viens là, mon pépère. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon pépère?
Qu'est-ce que tu lui as fait, toi?
Rien.
Mon père, il a le cœur qui bat.
Pauvre petite bête.
Ça prend bien que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi.
D'abord, j'en veux un, moi aussi.
À quoi?
À l'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi.
Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix.
Salaud.
C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier.
Moi, je m'en fous du monde entier.
Oh, écoute, on va pas qu'on lui menace bagarrer, moi je vais dîner.
Ah non, t'iras pas dîner, ce serait trop simple.
Oh, écoute, les scènes, c'est plus de ton âge, non?
Ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola. La nar petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou.
Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours.
Ce personnage de la mère, je pense, c'est le plus beau personnage de toute l'œuvre de Simenon. C'est aussi elle qui lui a inspiré le fameux personnage de la femme dans Le Chat, qui a été adapté au cinéma. Tout le monde a vu ce film, presque tout le monde, où c'est Signoret. Donc le personnage de Signoret dans le film du Chat, c'est la mère de Simenon, c'est son second mariage. Cette histoire qu'ils ont peur d'être empoisonnés l'un l'autre et qui ferme à clé, sa mère, son second mariage, elle faisait ça. Simenon l'a vu, sa mère ferme à clé sa nourriture de peur que son deuxième mari l'empoisonne. Donc, elle n'est pas que là, elle est aussi dans la fameuse lettre à ma mère. Et c'est vraiment un des personnages les plus riches. Et donc, c'est aussi une chose à dire de Simenon. Il n'a peut-être pas toujours compris les femmes, Mais peut-être que le personnage le plus fort de toute son œuvre, c'est pas Monsieur le Commissaire Maigret, mais c'est Élise. Élise Mamelin, dans Pédigré, c'est peut-être le personnage le plus intéressant, le plus fort, parce qu'elle est à la fois détestable, elle a toujours peur de manquer d'argent. Alors elle impose, alors qu'ils ne vivent pas dans une grande maison, elle impose à son mari qui fait son métier, qui a envie de tranquillité quand il rentre chez lui, d'avoir des locataires, des étudiants. Première chose. Et deuxième chose, elle arnaque un petit peu ses étudiants en question. Elle leur vend le charbon pour se chauffer. Elle en met toujours un petit peu moins que ce qu'ils ont payé.
Elle se trogne.
Oui.
C'est le mot qui est employé. Se trogner. Voilà. Pour rogner, c'est se trogner. Voilà. Elle est en train de chipper, de compter. Mesquine.
Mesquine. Donc, et en même temps, on ne la déteste pas parce qu'on la comprend.
Ah, je vous trouve gentille. Cette façon de s'excuser toujours d'exister,
oui.
De ne jamais être à sa place, de toujours demander pardon avant qu'on ait quoi que ce soit à lui pardonner. C'est les mots de Simenon.
Oui.
C'est insupportable. Cette espèce de culpabilité permanente qu'a cette femme d'être ce qu'elle est, d'être là où elle est, jamais contente d'elle, jamais contente de ce qu'elle vit, de toujours s'excuser d'être là, de toujours...
C'est quelque chose d'exaspérant, mais c'est quelque chose de touchant en même temps, non pas pour...
Si,
c'est touchant. Donc... Et puis elle est forte en même temps. En même temps, elle s'excuse d'être là, en même temps elle est forte. En même temps, c'est le roseau de La Fontaine, elle plie mais elle ne rompt pas. Tandis que le mari, c'est le chêne qui s'écroule. Père. C'est un très beau personnage aussi, Désiré.
Moi, je préfère. C'est un magnifique personnage. C'est une magnifique. Silhouette comme ça.
Un grand bonhomme.
Avec ses grandes jambes.
Avec ses grandes jambes, qui a une sorte de sagesse, d'un épicurien au vrai sens du terme. Ça ne veut pas dire pas l'excès des plaisirs, au contraire, savoir profiter des petites choses. Il va à son travail à pied. Il traverse la ville parce que son travail est à l'autre bout de la ville. Il traverse les ponts parce qu'il doit passer au-dessus du fleuve, de la Meuse. Et tous les jours, c'est un bonheur de traverser les ponts. Quelle sagesse! On est bien quand il le décrit. C'est un homme qui arrive à profiter de la vie simplement.
Moi, je le vois marcher. Je le vois marcher lentement. Je vois ses grandes jambes qui avancent. Je vois un personnage à la Giacometti, vous voyez, tout fin comme ça. L'homme qui marche de Giacometti.
Il faut qu'on aille dans l'autre pièce. Il y a une autre pièce ici, au fond. Maintenant, il faut que je vous montre. Il y a une photo que j'aime vraiment beaucoup qui est exposée dans une autre pièce où on les voit tous les deux. Les vrais parents, donc les personnages qui ont inspiré le roman. Et on voit le père qui s'appelle vraiment Désiré, c'est une chose. Il a changé le prénom de la mère, il a gardé le prénom du père. Il s'appelle vraiment Désiré. Et ils sont devant le pas de leur porte, en Outremeuse. Et lui, il a les mains dans les poches. Il regarde ailleurs, ne regarde pas vers le photographe. Il a l'air de regarder l'horizon. C'est un poète, les mains dans les poches. Et elle est en train de tricoter sur la photo. L'air de nous dire à travers le temps... J'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises de photographie. Moi, j'ai mon ouvrage.
L'angoisse de l'avenir, l'angoisse de l'argent. L'angoisse. Que Simenon dit avoir hérité de sa mère.
Oui.
Ce côté homme d'affaires, je fais de l'argent pour être sûr d'en avoir toujours. C'est sa mère.
Oui, c'est quelque chose de terrible pour lui qu'il est à la fois dans une sorte de colère vis-à-vis de sa mère, de rapport, je vais nous employer cette expression un peu passe-partout, mais... Je crois vraiment que c'est ça. D'amour-haine, il aime sa mère, en même temps, il la déteste, en même temps, il faut qu'il s'enfouille parce qu'elle l'étouffe. Et en même temps, il lui ressemble.
Vous avez souffert dans votre enfance de ce manque d'argent, de cette espèce de angoisse chronique qu'elle avait? Ça se communiquait un peu aux enfants?
Jamais le manque d'argent. Jamais le fait que, mon Dieu, on ne puisse pas s'offrir certains plats, certains dîners, certaines satisfactions que donne l'argent, mais uniquement la laideur que peut donner le manque d'argent. Eh bien, ce qui me faisait souffrir le plus, c'était la laideur de mes vêtements, des vêtements de mon père, des cravates de mon père, de mes souliers, de tout ce que je portais, de tout ce qui m'entourait. Et ça, vraiment, j'en ai souffert. Et bien maintenant, je me donne des petits cadeaux. Lorsque j'ai fini un roman, je vais voir les galeries de tableaux et puis je m'offre tantôt une gravure, tantôt un tableau. Et c'est un petit cadeau que je me fais uniquement pour avoir sous les yeux quelque chose de beau. Mais...
C'est vrai, en face de nous, il y a un Picasso.
Là, vous avez...
Un Bernard Buffet.
Un Buffet, là, vous avez un Soutine. Eh bien, tout cela sont des cadeaux que je ne me fais tout de même que quand j'ai fini un roman, quand j'ai fait un effort. Et ça me semblerait encore, c'est un reste de mon enfance, ça me semblerait indécent d'acheter une pièce de ce genre-là sans l'avoir gagnée.
Eh bien, moi, vous voyez, en lisant ce livre, après, on se dit que c'est que de l'agitation, sa vie. C'est-à-dire tout ce dont on ne veut pas parler, vous et moi.
Ouais.
C'est-à-dire l'homme aux 10 000 femmes ou 100 000 femmes ou que sais-je. L'alcool, les femmes, le fric, l'homme d'affaires. Je me dis tout ça, en fait, c'est rien par rapport à ce qu'il décrit dans cette fresque. Mm-hmm. C'est que l'essence même, le cœur même de Simenon, c'est là, c'est Liège, c'est ce quartier de l'Outremeuse, c'est ces petites gens, c'est cette vie dans le strict nécessaire. Mm-hmm. Et il vient de là. Il restera de là, quoi qu'il fasse.
Et de nouveau, je vais faire une forme de psychanalyse un peu rapide, à deux balles, mais il y a quand même quelque chose de troublant. Il se met à écrire après le décès de son père, il arrête d'écrire après le décès de sa mère. Et... on a l'impression qu'il fait tous ces romans, qu'il multiplie toute cette vie extraordinaire et tout ça. Pourquoi ? Pour avoir enfin la reconnaissance de sa mère. Parce que sa mère préfère son petit frère. Et il n'aura jamais cette reconnaissance de sa mère. Il court après. Et une fois qu'elle n'est plus là, pour lui dire, enfin lui dire c'est bien, genre je suis fier de toi, il n'a plus de raison. Enfin bon, c'est vite dit. Hein. Mais c'est quand même troublant. Il y a une interview comme ça, filmée, où il y a des journalistes français qui... Il est à Liège, il rend visite à sa mère, ils sont chez sa mère, où les journalistes veulent interroger sa mère pour qu'il parle de Georges. Et elle dit, mais vous savez, j'ai un autre fils, Christian. Et le grand Georges Simenon, il baisse la tête devant les journalistes, il est là. Il peut rien faire. C'est très, 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 très bouleversant. Dans l'anecdote que je trouve intenable, c'est le jour où elle lui dit... Donc, il faut que j'en mette un tout petit peu le contexte. Le frère en question, le frère préféré, le petit frère Christian, qui, comme par hasard, n'est pas dans Pédigré. Donc, Pédigré, roman autobiographique, une partie de la romancée, c'est que le petit frère n'en est jamais. Il n'y a pas de petit frère. Donc, réécrit l'histoire comme ça l'arrange. Le petit frère en question a mal tourné. On ne va pas y assister, mais il a mal tourné pendant l'occupation. Il s'est mis du côté des collaborateurs. Il s'est mouillé très fort. Donc, il a des ennuis à la libération. Et Georges lui conseille... ce serait une idée de Gide, d'entrer à la Légion étrangère et il meurt en Indochine. Donc il meurt, par balle, Christian Simenon. Et dans Lettre à ma mère, il raconte qu'un jour, sa mère lui aurait dit, ou lui a dit, voilà, je crois qu'il n'a pas pu inventer ça, sa mère lui a dit, Georges, quel dommage que ce soit Christian qui soit mort. C'est terrible, c'est juste terrible. C'est là où Simenon est grand, de ne pas avoir fait vipère au poing. Il faut partir, il faut s'enfuir du Liège de Pédigré.
Lui, il est parti.
Simenon,
il est parti.
Et il ne revenait jamais que pour revoir sa mère. Et une fois qu'il est décédé, il n'est plus revenu.
Écoutez aussi cet extrait de Pédigré. Il partira et jamais, jamais, il ne vivra comme son père et sa mère. Il se le promet. Rien ne sera admis dans son existence qui puisse lui rappeler son enfance. Cette enfance, il la hait. Il hait la rue de la Loi, la rue Pasteur. Il hait le frère Médard et Madame Laude et toutes les petites laideurs, les petites lâchetés quotidiennes qui le font souffrir. Il est décidé de se venger, mais il ignore comment, mais il se vengera, il le sait. Merci à Laurent Demoulin. Sur le site de l'émission des livres, dont un cahier de Lerne sur Simenon, que justement Laurent Demoulin a dirigé et qui est vraiment bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 20h, l'heure des rêveurs.